Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 4 juin 2014, Timothée Donangmaï, ici à Washington, en compagnie de Chérubin Dorsil. À la une de cette édition,
Boko Haram frappe à nouveau. Des dizaines de morts ont été enregistrées aujourd'hui dans l'état de Borno, au Nigeria.
En RCA, le gouvernement tente de contrôler la situation, bannit les SMS et insiste sur un désarmement volontaire.
Nous avons jugé nécessaire de contrôler la situation sécuritaire et je crois que la limitation des SMS était un des moyens que nous avons jugé les plus efficaces.
On écoutera dans un instant le Premier ministre André Nzapayeke.
Sous pression occidentale, la Russie dément l'existence d'un plan pour annexer ou déstabiliser l'est de l'Ukraine.
Et 25e anniversaire des incidents de la place Tiananmen, pas de manifestation à Pékin mais plutôt à Hong Kong. Ces points et d'autres, et nos pages sport et musique, après le journal.
Nous ouvrons au Nigeria, où des membres présumés de Boko Haram ont de nouveau attaqué aujourd'hui plusieurs villages dans l'état de Borno. Des dizaines de personnes ont été tuées, Jean-Roger Bion.
Des habitants du village d'Atagara, près de la frontière du Cameroun, ont expliqué que des hommes en uniforme sont arrivés en voiture et ont réuni la population à l'église avant d'ouvrir le feu. Des témoins ont expliqué à l'agence EPI que les militants de Boko Haram attaquent les villages, tuent et terrorisent les civils et les autorités politiques. Nglamouda Ibrahim, un fonctionnaire du gouvernement local, affirme que les islamistes ont hissé, il y a quelques semaines, leur drapeau à Ashigashiya, une localité située à la frontière avec le Cameroun, sans que les forces de sécurité ne réagissent.
Le Nigeria dément un article du journal Leadership disant que 15 officiers, y compris 10 généraux, ont été passés en cour martiale pour avoir collaboré avec Boko Haram. Un porte-parole de l'armée nigériane et un responsable de communication du gouvernement ont dit à la Voix de l'Amérique que l'information est fausse.
En République centrafricaine, le premier ministre de la transition, André Nzapayeke, réitère son appel au désarmement volontaire du 8 juin. Le point avec Nicolas Pino.
En prélude au désarmement volontaire du 8 juin à Bangui et ses environs, le chef du gouvernement centrafricain a rencontré ce mercredi les autorités locales. André Nzapayeke a invité les chefs de quartier et groupes à organiser le désarmement en appelant les Centrafricains à l'esprit du pardon et à la cohésion sociale. Le Premier ministre a expliqué que le désarmement volontaire est une expression de la volonté de retrouver la paix sur l'ensemble du pays. Par ailleurs, le président de la Conférence des imams de France, l'imam Hassan Chalgoumi, est en mission de 4 jours à Bangui. Il a appelé les forces internationales à prendre leurs responsabilités.
Je ne crois pas que la religion elle-même, elle pousse à cette haine, parce que quelqu'un qui croit au message de Jésus ou de prophète Mohammed, il ne peut pas être de cette manière. Quelqu'un qui l'a à la foi dans son cœur, il ne peut pas se mouiller sa main avec de sang. Mais en même temps, je donne la responsabilité aux Européens, aux Africains, qui prennent leur responsabilité.
Et c'est ce mercredi qu'a pris fin le deuil de 3 jours décrété à la mémoire des victimes de l'attaque de l'église de Notre-Dame de Fatima.
En Libye, le Premier ministre est à peine installé que le siège du gouvernement est frappé par une roquette sans faire de victimes. Issa Napon.
L'attaque a visé hier le 3e étage de la primature près du centre de Tripoli. Absent de ses bureaux au moment de la déflagration, le Premier ministre Ahmed Maïtik s'y est rendu aujourd'hui pour tenir le Conseil des ministres. Le cabinet sortant, conduit par Abdallah Al-Thani, conteste l'élection de M. Maïtik et dit avoir saisi la justice pour trancher. Le Premier ministre sortant a dit avoir instruit sa sécurité pour laisser entrer M. Maïtig et son équipe à la primature. Dans l'est du pays, le général dissident Khalifa Haftar a échappé ce matin à un attentat suicide. Un kamikaze a lancé sa voiture piégée contre l'un de ses quartiers généraux près de Benghazi. 3 gardes qui tentaient d'arrêter l'assaillant ont été tués. Le groupe Ansar al-Sharia avait lancé une mise en garde au général Haftar pour qu'il arrête son offensive contre les islamistes.
Les États-Unis ont appelé le président élu égyptien à mener des réformes pour assurer que le gouvernement soit responsable et transparent, tout en protégeant les droits universels de tous les Égyptiens. Le président Barack Obama prévoit de parler avec Abdel Fattah el-Sissi dans les prochains jours, précise un communiqué de la Maison-Blanche.
Les États-Unis se disent profondément préoccupés par l'arrestation et la disparition de dizaines de citoyens rwandais au cours des 2 derniers mois. Les autorités rwandaises ont tenu des individus au secret pendant des périodes allant jusqu'à 2 mois avant de les présenter à un tribunal, a fait savoir Mary Harf, porte-parole du département d'État, dans une déclaration écrite. Madame Harf a également fait état d'informations crédibles que des journalistes ont été menacés. Elle a appelé le Rwanda à respecter entièrement la liberté d'expression, y compris celle de la presse.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama appelle le monde à se tenir aux côtés de ceux qui aspirent à la liberté. Dans un discours à Varsovie, le chef de l'exécutif américain a établi un parallèle entre les réformes en cours en Ukraine et les élections ayant marqué, il y a 25 ans, la fin du régime communiste en Pologne. Michel Joseph.
Monsieur Obama parlait à l'occasion de la célébration de la Journée de la liberté, qualifiant de raz-de-marée pour la liberté les premières élections partiellement libres de Pologne en 1989. Il a déclaré que le monde reste uni face aux manœuvres sombres de la Russie en Ukraine. Pour Barack Obama, on ne devrait pas tolérer que les nations les plus fortes imposent leur volonté aux plus petites en usant des armes ou d'hommes masqués. Toute nouvelle provocation russe signifiera un isolement accru, a averti M. Obama, qui a aussi rencontré à Varsovie Petro Poroshenko, le président élu de l'Ukraine. M. Obama est maintenant à Bruxelles, où il doit participer à un sommet du G7, où il sera aussi question de l'Ukraine et des relations avec la Russie.
La Russie n'a aucun plan d'annexion ou de déstabilisation du sud-est de l'Ukraine, a déclaré le président Vladimir Poutine. Ce démenti intervient alors que les dirigeants européens lui demandent de faire pression pour que les séparatistes mettent fin à leur rébellion contre Kiev. M. Poutine a également démenti la présence en Ukraine de soldats ou d'instructeurs militaires russes. Ce mercredi, la chancelière allemande Angela Merkel a averti que Moscou ferait face à de nouvelles sanctions s'il n'arrête pas le transfert d'armes et de combattants vers l'est de l'Ukraine.
Les talibans afghans ont publié une vidéo montrant le transfert du sergent Bo Bergdahl, libéré samedi dans le cadre d'un échange de prisonniers. Lionel Gaïma.
Dans cette vidéo de 17 minutes, on peut voir Bergdahl, la tête bien rasée et vêtue d'un habit traditionnel afghan de couleur blanche. Il est assis dans une camionnette stationnée sur une colline. Il se frotte les yeux en plein soleil. Plusieurs hommes armés sont vus à proximité. Plus tard, il a été remis à des hommes qui arrivent dans un hélicoptère de type militaire. Un des hommes le conduit à l'hélicoptère portant un drapeau blanc. Deux fois dans la vidéo, on peut lire sur l'écran « Ne revenez pas en Afghanistan ». Les talibans ont libéré Bergdahl samedi en échange de 5 de leurs qui étaient détenus à la prison militaire américaine de Guantanamo Bay à Cuba.
Le gouvernement américain offre 290 millions de dollars d'assistance humanitaire pour renforcer les efforts des Nations Unies en Syrie et dans les pays voisins qui ont accueilli des réfugiés venant de la Syrie. L'annonce a été faite aujourd'hui par le secrétaire d'État américain John Kerry. Toutes les nations, a ajouté John Kerry, ont la responsabilité d'œuvrer pour la fin du conflit syrien.
25e anniversaire des événements de Tiananmen, des dizaines de milliers de personnes ont pris part à Hong Kong à une vigile pour commémorer les massacres de 1989 dans la capitale chinoise. À Pékin, la situation était plutôt calme, les précisions d'Idriss Fall.
La place Victoria de Hong Kong était illuminée de milliers de cierges, tandis qu'une foule immense écoutait des discours et chansons rappelant la sanglante répression du mouvement pro-démocratie en Chine. L'activiste Ren Tse.
We understand the importance of fighting for the democracy of the China.
Nous comprenons l'importance de lutter pour la démocratie en Chine. Hong Kong faisant partie maintenant de la Chine, le Parti communiste s'oppose aux réformes politiques. Il essaie d'élire un chef de l'exécutif de Hong Kong qui ne répond qu'au gouvernement de la Chine continentale. La situation était beaucoup plus calme à Pékin où des centaines de policiers ont empêché les journalistes d'accéder à la place Tiananmen. La Maison-Blanche a exhorté la Chine à rendre compte des personnes tuées, détenues ou portées disparues depuis 1989. Le ministère chinois des Affaires étrangères accuse Washington d'ingérence dans les affaires intérieures.
Un kamikaze a causé une explosion à proximité d'un véhicule de l'armée à Islamabad, tuant 5 personnes. Selon les autorités, l'attentat de mercredi à Rawalpindi a été perpétré par les talibans, mais il n'a pas été revendiqué. Deux des victimes sont des officiers militaires, les trois autres sont des civils.
Au Pakistan, la police a annoncé l'arrestation des frères de la jeune femme récemment assassinée par ses parents pour avoir épousé l'homme de son choix. Farzana Parveen, âgée de 25 ans, a succombé, on se le rappelle, à des coups de brique devant un tribunal de Lahore. C'était le 27 mai. Aujourd'hui, la police a confirmé l'arrestation de ses frères et d'un autre homme. Son père, qui a admis sa participation dans le crime, était déjà en prison, ainsi qu'un oncle et deux cousins de la victime.
Voilà pour le journal, 19h40, temps universel, 15h40 ici à Washington, district de Columbia. Le Monde aujourd'hui sur la voie de l'Amérique, Timothée Donangmaï et Chérubin Dorsil en votre compagnie.
Le Monde aujourd'hui, notre magazine. Au Nigeria, les manifestations de soutien aux lycéens enlevés par Boko Haram reprennent dès demain. À Abuja, la police avait interdit ces manifs, mais les organisateurs ont saisi la justice. Idriss Fall a joint le professeur Joël Oluwaseum de l'Institut français à Abuja.
Non, en fait, la police avait saisi les manifs, soit 30 secondes. Il y a certaines leaders politiques de l'opposition qui veulent politiser cette action de démonstration chaque jour. Alors, le parti politique, la majorité, avait interdit la marche. Mais quand les manifestants ont saisi la cour de justice, tout de suite la cour a intervenu pour stopper la police.
Et est-ce que des manifestations sont prévues demain ou après-demain?
Effectivement, les manifestations auront lieu demain. C'est presque chaque jour toute la semaine. Nous avons toujours un point de rendez-vous où tout se rassemble. C'est devant le grand hôtel Transport Meeting à Abuja. Il y a un grand jardin là-bas, c'est là-bas le groupe Chapo.
Est-ce qu'on sait s'il y a eu des généraux de l'armée qui ont été arrêtés pour complicité avec Boko Haram?
Ah, présentement, franchement, pour vous dire la vérité, les informations n'ont pas précisé les auteurs de ceux qui sont établis les coupables, ceux qui filtrent l'information au Boko Haram. Les informations n'ont pas complètement donné aucune identité.
Et comment est-ce que les gens vivent avec la terreur de Boko Haram au quotidien? Comment est-ce que les gens vivent, les Nigérians? Est-ce que c'est la peur ou bien?
Non, pas du tout. En fait, c'est devenu une seconde nature des Nigérians. C'est au début que les gens avaient peur, mais maintenant, chacun garde à son occupation tranquillement, paisiblement. Il n'y a pas de peur.
Le professeur Joël Oluwaseum de l'Institut français à Abuja. Vous êtes en République centrafricaine et vous voulez joindre quelqu'un, n'essayez surtout pas les SMS.
Et non, Chérubin Dorsil, l'utilisation des textos est suspendue dans ce pays jusqu'à nouvel ordre et c'est selon les autorités en vue de contribuer à la restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Le ministère des Télécommunications a adressé une lettre aux compagnies de téléphone avec effet immédiat. Il est aussi question d'un désarmement volontaire dimanche à Bangui. Félix Yepassi Zembrou a joint le Premier ministre André Nzapayeke.
Cette mesure, il ne faut pas voir ça comme une mauvaise mesure. Nous sommes dans une situation de crise grave. Il y a eu une grave atteinte à la sécurité de l'État. Donc, nécessairement, le gouvernement doit prendre un certain nombre de mesures pour sécuriser les institutions de l'État, pour sécuriser les populations. Donc, on ne pouvait pas se permettre, les SMS étant un des moyens les plus utilisés par les comploteurs, les manipulateurs qui manipulent notre jeunesse, qui les regroupent à travers les SMS pour leur donner de la drogue et distribuer des ressources, les traitant comme s'il s'agissait de moutons à qui on peut donner un peu d'argent et de drogue et les envoyer pour qu'ils détruisent toute leur nation. Donc nous avons jugé nécessaire de contrôler la situation sécuritaire et je crois que la limitation des SMS était un des moyens que nous avons jugé les plus efficaces. Ça ne durera que quelques jours. D'ici deux jours, je pense que cette mesure va être levée.
Oui, mais cette mesure, Monsieur le Premier ministre, est-elle efficiente dans la mesure où les abonnés à la téléphonie mobile peuvent encore utiliser d'autres moyens que le SMS, par exemple le téléphone?
Bien sûr, nous savons qu'ils peuvent utiliser d'autres moyens, mais vous savez quand même que c'est beaucoup plus difficile de téléphoner à tour de rôle à 1000 personnes que d'envoyer en une seule fois un seul message à 1000 personnes.
Cela n'affecte-t-il pas quelque peu la liberté de communication en Centrafrique?
Nous sommes dans une situation où le pays est pris en otage. Est-ce que le Centrafricain moyen a encore une liberté? Nous, aujourd'hui, nous sommes tous pris en otage par les anti-Balaka et les ex-Seleka et les autres manipulateur et criminel qui sème le territoire centrafricain. Alors, c'est une question de choix. Ou bien nous voulons lutter contre la criminalité de manière efficace et garantir durablement la liberté des individus, ou bien nous laissons les individus à la merci de tous ces criminels. Eh bien, nous avons choisi la protection des individus.
Le Premier ministre centrafricain André Ntsapayeke joint à Bangui.
Retour ce soir sur la question des mariages précoces, Timothée. Dans la majorité des pays africains, au moins 30% des filles sont mariées avant 18 ans.
Et Chérubin Dorsil, ce taux élevé a conduit l'Union africaine à lancer une campagne de 2 ans pour mettre fin à de tels mariages. Michel Joseph.
Dans les pays en développement, 14 millions de filles de moins de 18 ans sont forcées de se marier chaque année. C'est le cas de Zenabou, nigérienne de 16 ans. Elle dit qu'elle a été retirée de l'école par ses parents pour être mariée. Son mari l'a battue si elle ne voulait pas qu'il la touche. Elle s'est enfuie chez ses parents, mais ils l'ont aussi battue et l'ont ramenée chez le mari. Elle dit qu'elle s'est finalement enfuie chez une tante et qu'elle veut retourner à l'école. La plupart de ces filles sont issues de familles peu instruites et de zones rurales, où les filles n'ont pas le pouvoir de s'opposer aux normes de la communauté. La campagne de l'Union africaine pour mettre fin au mariage d'enfants est axée sur l'action politique et la sensibilisation. Le directeur de la Commission des affaires sociales de l'Union, Olawale Mayegun, dit que les États membres doivent mettre en œuvre des cadres juridiques de protection des enfants.
The Charter on the Rights of the Child, for example, has clear provisions on harmful practices.
La charte sur les droits de l'enfant, par exemple, comporte des dispositions claires sur les pratiques néfastes à l'égard de l'enfant. Il est très clair que la culture ou la religion ou n'importe quoi d'autre ne peut pas servir d'excuse et les États doivent prendre des mesures pour les éliminer. Les gens utilisent toutes sortes d'excuses pour perpétuer leurs habitudes, mais il n'y a aucune excuse dans la mesure où la Commission est préoccupée. 9 des 10 pays ayant les taux de mariage des enfants les plus élevés se trouvent en Afrique, à savoir le Niger, 75%, le Tchad et la République centrafricaine, 68%, la Guinée, 63%, le Mozambique, 56%, le Mali, 55%, le Burkina Faso et le Soudan du Sud, 52% et le Malawi, 50%. La campagne « Stop au mariage des enfants » de l'Union africaine se fait en coopération avec les gouvernements africains, l'UNICEF et les organisations de la société civile. Pour Martin Mogwanja, directeur exécutif adjoint de l'UNICEF, elle doit continuer jusqu'à ce que toutes les filles dans chaque famille et chaque communauté aient atteint leur 18e anniversaire avant de se marier, a-t-il déclaré à Addis Abeba.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Du 12 juin au 13 juillet, retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde. Les résultats, les coulisses et les à-côtés de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com ou notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
Chérubin Dorsil, une tasse de café dans cette édition du Monde aujourd'hui.
Les producteurs africains sont réunis au Cameroun Team pour tenter de relancer la production. Mais il faut dire que cette production est en déclin depuis de nombreuses années. Et selon certaines estimations, elle aurait chuté de 70%. Nicolas Pineau nous en dit plus.
Oui, le règne de l'Afrique sur le café et le cacao s'est achevé il y a longtemps. Si dans les années 80, le continent produisait 40% du café mondial, il ne représente aujourd'hui qu'à peine 10%. Pour l'exportateur camerounais Bouinda Albert, il ne fait aucun doute que la crise économique de la fin des années 80 et du début des années 90 a été fatale à l'Afrique. Les gouvernements africains ont suspendu leur aide financière et technique aux producteurs de café, selon lui. Parmi les autres facteurs cités pour ce déclin, le changement climatique, le vieillissement des plantations et l'abandon du secteur au profit du pétrole et autres ressources minérales. En conséquence, des millions d'Africains qui vivaient du café se sont retrouvés au chômage, souligne l'analyste Roger Betala.
Lorsque le café a des problèmes, tous les intermédiaires, les torréfacteurs, les transporteurs, les usiniers sont touchés. Deuxième chose, c'est cette difficulté à recycler cette main-d'œuvre qui était dans le café. la perte de la compétitivité et des performances du café amène beaucoup d'intervenants à se retrouver sans emploi. Donc la baisse des prix du café sur les marchés internationaux a été très préjudiciable aux économies de cette zone.
Le PIB de nombreux pays africains a souffert de la crise du secteur, ajoute M. Betala.
Au Cameroun, par exemple, le café entrait dans la constitution du produit intérieur brut autour de 15 à 20%. Mais aujourd'hui, c'est peut-être même moins d'1% du produit intérieur brut du Cameroun aujourd'hui vient du café.
La rencontre de Yaoundé vise à identifier les moyens pour augmenter la production d'au moins 50% en 2 ans. Pour Bedimo Joseph de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, l'Afrique doit travailler avec les géants du café des autres continents, tels que le Brésil, qui représente aujourd'hui un tiers de la production mondiale de café.
Nous avons dans nos collections, par exemple, quand je voulais parler des collections de café arabica, on a 217 génotypes. De ces génotypes, nous faisons la sélection variétale. Pour l'instant, il y a un travail qui est fait sur le terrain avec les génotypes qui nous sont venus d'Amérique latine et que nous essayons de travailler avec les autres collaborateurs brésiliens, français, etc.
John Schroeter de l'ONG Coffee Africa ne doute pas de la capacité de pays tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou encore la République démocratique du Congo à atteindre les objectifs fixés. La consommation de café augmente à travers le monde et le café africain est appelé à rejouer un rôle de premier plan selon lui. La recherche, l'application d'engrais, le rajeunissement des plantations sont autant de mesures qui peuvent assurer la relance du secteur, affirme-t-il.
Ici Robert Daguillard. Cette semaine, Washington Forum vous donne un avant-goût de la Coupe du Monde de football au Brésil qui aura lieu cette année du 12 juin au 13 juillet. Quelle est votre équipe favorite? Qui a le plus de chances de remporter le tournoi de cette année? Et comment la VOA se prépare-t-elle à couvrir cet événement? Washington Forum, comme toujours, c'est jeudi à 19h TU.
Voilà notre page sport et c'est avec Bagassi Koura. Bagassi, la fièvre du mondial s'est emparée des fans à travers le monde et plusieurs matchs amicaux sont prévus ce soir.
Oui, les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde continuent leur préparation. Ce soir, les Pays-Bas affrontent le pays de Galles. L'Équateur joue en ce moment contre l'Angleterre. Les deux équipes sont à égalité, un but partout. L'Italie joue ce soir également contre le Luxembourg et les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent au Texas ici. L'équipe du Salvador, on devrait voir lors de ce match l'équipe type des éléphants.
Et oui, Bagassi, côté banque, Lionel Messi reste le joueur le plus cher du monde.
Oui, l'attaquant argentin du Barça, Lionel Messi, est le joueur dont la valeur marchande est la plus élevée sur la planète football, soit 216 millions d'euros, selon une étude de l'Observatoire du football citée par l'agence France Presse. L'Observatoire du football, c'est un centre international d'études du sport qui a publié ce rapport ce mercredi. Le quadruple Ballon d'Or, Lionel Messi donc, en raison d'une saison 2013-2014 en demi-teinte, enregistre cependant un recul de 19 millions d'euros par rapport à l'an passé, mais reste tout de même deux fois plus cher que son éternel rival madrilène, Cristiano Ronaldo, qui lui a une valeur de 114 millions d'euros et qui arrive donc deuxième.
Et ici aux États-Unis, Bagassi, Donald Sterling est satisfait de la vente de son club de basketball professionnel.
Oui, il a empoché 2 milliards, hein, raison de quoi de plus normal que d'être satisfait. L'ancien propriétaire des Los Angeles Clippers, suspendu à vie par la NBA pour racisme, a assuré qu'il était satisfait de la vente de son équipe de basketball, une vente menée à bien par son épouse. « Je me sens fabuleusement bien. » « Je me sens très bien », a déclaré mercredi soir l'homme d'affaires de 80 ans à la chaîne de télévision locale NBC4. Rappelons que demain, le premier match donc des finales nationales va opposer les Heat de Miami aux San Antonio Spurs.
Et deux petits commentaires, Bagassi. Sterling qui se sent bien avec 2 milliards de dollars en poche, combien vous faut-il pour vous sentir bien?
Ah, il faudra beaucoup d'ordinateurs. Je ne sais pas si les ordinateurs actuels pourraient faire le calcul sans se bloquer. Il faudra des ordinateurs super puissants pour faire ce calcul.
Moi, je vous fais confiance parce qu'on dit que le Burkina, c'est le pays des hommes intègres.
On a de l'or maintenant là-bas.
Et l'autre commentaire, les Spurs qui vont affronter Miami en finale de la NBA.
Je pense que San Antonio, même si qu'on prend leur revanche, n'en déplaise à Chérubin, je pense que cette année ne sera pas encore leur année. Hein.
Et comme je l'ai dit, j'ai un faible pour mon homonyme Tim Duncan là-bas à San Antonio. Donc j'espère qu'il va avoir une bague cette année.
Mais... Écoutez, j'ai deux équipes favorites dans la NBA. La première, c'est San Antonio.
Et les Washington Wizards.
La seconde, c'est Miami.
Les Washington Wizards.
Donc je ne peux perdre.
Ah, ok. Donc on gagne ou on gagne.
Voilà, merci Bagassi.
Il est 19h55 en temps universel. On passe à la page musicale avec Roger Monto. Salut Roger.
Salut Gabi, salut Tim. Il a plusieurs albums, hein, et le mannequin des arrangeurs, seul Dieu. Côté son cible, voilà, vous l'avez bien deviné, c'est l'artiste Guy Serge Benoît, hein, chanteur de coupé décalé, que nous écoutons ce soir dans Kaba Bleke.
J'ai donné des mains pour m'imposer, mon coupé décalé confirmé. Oh, ce n'est pas ma photo, c'est Dieu qui m'a donné. Partout en Afrique, on danse mon coupé décalé. Oh, Beno,
sing it.
Africa, aïe, moi je t'aime.
Abilo-bilo.
L'amour est,
aïe,
moi j'adore.
Abilo-bilo.
Les femmes,
aïe,
je vous aime.
Abilo-bilo.
Dire qu'aujourd'hui c'est Kinshasa Wednesday sur la voie de l'Amérique. À 18h30, on a parlé de Kinshasa et ouais. Encore maintenant.
C'est pas Kinshasa maintenant. Hein. Hein? Il va quand même aller à Kinshasa.
C'est pourquoi je te dis ça. Ah, tu as deviné. Parce que Guy Serge Benoît sera à Kinshasa le 30 juin prochain.
Mais voilà, mais t'es très bien informé là, Gabi.
Et pourquoi pas.
Mais oui, exactement. Hein. Les Kinois vont bien faire leur malin grâce à la maison Lady Prod hein, qui invite l'artiste à Kin Label. Et Gabi, cet artiste est passé nous voir ici à la Voix de l'Amérique. C'est pas un petit, hein, comme on dit en Abidjan. C'est pas un petit. Et je crois que Tim.
Oui, bien sûr. Je suis venu ici en studio pour voir Serge Benoît.
Ouais. Et toute la famille de Tim est venue aussi
voilà,
dire bonjour à l'artiste.
Oui, mes petits-enfants et puis mon épouse, on est tous venus. C'est parce qu'on regarde Serge Benoît sur YouTube les week-ends, donc on était ravis de faire sa connaissance. Et Roger, ce départ pour Kinshasa, c'est un peu un retour, en quelque sorte, à la source, parce que, voilà. Vous vous rappelez, le coupé décalé au début, un morceau coupé décalé qui se respecte, devait inclure au moins une phrase en lingala.
En lingala, ça c'est vrai. Et je crois qu'il continue, même lui, Serge Benoît, continue à chanter aussi en lingala. Hein.
Voilà. Alors les gars, revenons à notre Kaba Bleke. Serge Benoît dans Kaba Bleke. Merci Roger.
De rien Gabi.
Vous retrouverez Roger Muntou dans quelques instants. C'est lui, le pilote du RM Show à 20h, temps universel sur la VOA.
Timothée Donangmaï.
Chérubin Dorsil. C'est la fin de cette édition.
Et voilà, on vous retrouve très prochainement sur les ondes.
Il faut rappeler que c'est Michel Joseph qui a dirigé la mise en onde. Joe Gill et notre bon ami Abdel Rahman ont assuré la partie technique. Un grand merci à toute la rédaction. Laissez vos messages sur Facebook.